la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est une émission qui vous emmène dans la révélation de la parole de Dieu afin de vous restaurer et vous ramener dans le plan de Dieu pour votre vie. La puissance de la parole de Dieu, une émission qui vous communique la vie sur tous les plans. Elle est animée par le prophète Adankon Emmanuel de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. La puissance de la parole de Dieu, que Dieu bénisse votre écoute.
Nous vous saluons. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, n'importe où vous êtes actuellement, nous voulons vous communiquer la parole de vie. Vous êtes sur l'émission La puissance de la parole. Au commencement, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et il veut sur sa parole pour l'accomplir. Nous n'avons pas autre chose à vous communiquer en dehors de la parole de Dieu. Cette émission qui est destinée à vous communiquer la vie, car l'homme a besoin de vivre. Si nous sommes sur la terre, c'est pour vivre. Et vous avez raison. C'est pour cela que cette émission a été conçue pour vous apporter les principes divins qui peuvent vous aider à mener une vie heureuse sur la terre. Nous avons déjà commencé un thème que nous avons, qui est l'objet de notre méditation, à savoir ce que Dieu demande à l'homme. Ce que Dieu demande à l'homme. Et nous avons vu dans l'émission précédente que l'Éternel Dieu nous demande trois choses. Et premièrement, comme nous l'avons vu dans le livre de Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6, le verset 8, que je cite. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc, l'Éternel Dieu nous a révélé ce qui est bien. Et dit ce qui est bien, c'est que nous pratiquions la justice. Et c'est de cela que nous avons débattu la semaine écoulée. Aujourd'hui, nous avons abordé le second point, aimer la miséricorde. Aimer la miséricorde. Chers auditeurs et auditrices, la miséricorde, c'est ce sentiment affectif que quelqu'un qui est placé en autorité a vis-à-vis d'un autre qui est peut-être fautif ou bien qui a fait quelque chose de répréhensible, mais l'autre qui est en autorité a ce sentiment affectif vis-à-vis de lui et ce sentiment l'amène à avoir pitié de celui-là qui est fautif et de pouvoir lui pardonner ou bien de pouvoir lui gracier. Donc, quand nous parlons de la miséricorde, c'est un sentiment affectif qui amène quelqu'un à avoir de la pitié pour l'autre et avoir de la compassion pour l'autre. Et quand nous regardons bien ici, la parole de Dieu nous dit que qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu demande à l'homme? Nous avons déjà vu que Dieu demande à l'homme de pratiquer la justice. Et deuxièmement, nous voyons aussi que l'homme, Dieu demande à l'homme d'aimer la miséricorde. Aimer la miséricorde. Et pourquoi Dieu demande d'aimer la miséricorde? N'oubliez pas que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que s'il y a un être qui ressemble à Dieu, c'est l'homme. L'homme grand âge, c'est-à-dire que je parle de l'homme masculin comme l'homme féminin. Donc, nous sommes les seuls qui ont été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et quand nous lisons bien la parole de Dieu, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui est d'abord miséricordieux. Donc, la miséricorde est un caractère de Dieu, un caractère de l'Éternel Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 4. Deutéronome 4, verset 31. Deutéronome 4, verset 31, nous lisons. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui leur a juré. Chers auditeurs et auditrices, on dit l'Éternel, notre Dieu, c'est-à-dire le créateur de tout l'univers, est un Dieu de miséricorde. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un Dieu qui a compassion envers les hommes pour pouvoir les pardonner, pour pouvoir les faire du bien. Et puisque Dieu, celui qui a créé tout l'univers, est un Dieu miséricordieux, il dit, à cause de sa miséricorde, il ne t'abandonnera point. Tu écoutes, Dieu n'abandonne pas l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Tu es cher à Dieu, mon frère. Tu es cher à Dieu, ma soeur. Chers auditeurs et auditrices, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu, notre Dieu, est un Dieu de miséricorde. Et il dit, à cause de sa miséricorde, il ne t'abandonnera point. Et deuxièmement, il ne va pas te détruire. Parce que lorsqu'on a la miséricorde pour quelqu'un, on cherche à sauver la personne. On cherche à pardonner la personne. On cherche à restaurer la personne. Et, chers auditeurs et auditrices, Dieu dit ici qu'il est le Dieu de miséricorde. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui ne détruit point. Il dit, il ne va même pas oublier l'alliance qu'il a fait à tes pères, qu'il les a jurés. Ici, de quelle alliance s'agit? Il s'agit de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, Dieu est un Dieu de fidélité. Et sa miséricorde est l'une des caractéristiques. Et nous devons comprendre que lorsque Dieu lui-même, il veut se présenter à Moïse, n'oubliez pas, Moïse est un grand homme de Dieu, celui-là à qui Dieu a confié les commandements, les ordonnances, les préceptes que chacun de nous pouvons nous mirer dedans pour voir notre marche sur la terre. Nous voyons que ce Moïse-là, ce grand homme-là, avec qui Dieu a fait des choses terribles, des miracles, des prodiges. Regardez, ce Dieu-là a marché avec Moïse. Et Moïse a vu ce Dieu dans un, comment on appelle, sur la montagne de feu. Sur le mont Horeb, il a vu Dieu. Sur le mont Sinaï, il a vu Dieu se manifester dans un aspect de feu et de brouhaha avec des sons, des trompettes. Et devant ce spectacle, le peuple même aussi a pris peur. Il dit que ce Dieu-là, il risque de nous détruire. Mais regardez, le même Dieu, quand il a décidé de se présenter à Moïse, regardez comment il s'est présenté à Moïse. Dans Exode 34, nous lisons le verset 4 à 6, et nous allons voir comment Dieu s'est présenté à Moïse. Et regardez, la Bible dit, dans Exode 34, là, verset 4 à 6, je cite, « Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. » Donc, vous voyez, on dit que Moïse a taillé les deux pierres, c'est-à-dire les tables de la loi. Vous savez, les premières tables que sur lesquelles Dieu a écrit les dix commandements. Quand Moïse était descendu, il a vu que le peuple faisait déjà ce qui est contraire à ce qui se trouve dans sa main. Et il a jeté ces deux pierres sur ces deux tables de pierre sur lesquelles se trouvent les dix commandements. Et ces tables de pierre sont brisées. Donc l'Éternel Dieu ici l'a demandé de refaire, de tailler encore deux autres pierres et de monter sur la montagne vers lui. Et Moïse a taillé effectivement les pierres et il est parti sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel Dieu lui avait donné. Dieu, la Bible dit, pendant que Moïse était sur la montagne, l'Éternel Dieu est descendu et il est resté auprès de Moïse pour proclamer son nom. C'est ce que verset 5 nous dit, l'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Le verset 6 nous dit, et l'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire devant Moïse, et s'écria. Écoutez, chers auditeurs et auditrices, comment Dieu lui-même va se présenter à Moïse. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Vous voyez, Dieu lui-même se présente ici en tant que le Dieu miséricordieux et compatissant, qui est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui a créé cet monde, cet univers, qui nous a créé à son image, à sa ressemblance, c'est un Dieu qui exerce la miséricorde. C'est un Dieu qui exerce la compassion. Et vous savez, la miséricorde et la compassion sont les deux filles jumelles d'un même, de grand-père, de ce sentiment affectif qui amène Dieu à pouvoir pardonner quelqu'un et à pouvoir lui faire du bien. On dit, Dieu est tellement un Dieu miséricordieux et compatissant que il ne punit pas tout de suite. Il est lent à la colère. Il ne s'énerve pas. Dieu n'est pas un gendarme qui a un gros bâton et que chaque fois que quelqu'un a fait quelque chose, il tape sur sa tête ou bien il le fait. Non. Dieu veut toujours que même le pécheur puisse se repentir et avoir la vie. C'est pourquoi il le dit, je ne désire pas même la mort du pécheur, mais qui se repent et qui ait la vie. Chers auditeurs et auditrices, Dieu ne désire pas ta mort. Il ne désire pas ta perte. Dieu ne veut pas te détruire. Et Dieu veut rester toujours, il veut rester avec toi. Il veut te montrer il veut te donner la direction à suivre dans ce monde pour mener une vie heureuse, pour mener une vie victorieuse, pour pouvoir avoir le bonheur tant escompté. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Donc voilà pourquoi il nous demande à nous-mêmes qui sont les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Que si lui est un Dieu miséricordieux, nous aussi nous devons être aussi des gens miséricordieux. Et c'est pour ça que ceci doit amener même ceux qui se disent qu'ils sont des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui s'en vont même à l'église, ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Ils doivent savoir que il doit avoir aussi la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est dans la nature de Dieu que se trouve la compassion, la miséricorde, la sainteté, la puissance, la bénédiction. Donc, si nous avons revêtu réellement la nature de Dieu, puisque nous avons déjà vu la semaine passée qu'en Christ, Dieu nous a justifiés. Et Dieu a fait de nous ses justes. Et nous avons revêtu une nouvelle nature. Voilà pourquoi en Christ nous sommes recréés et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que une fois que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, Dieu nous donne le privilège de porter sa nature. Et l'une des caractéristiques de la nature de Dieu, c'est la miséricorde. C'est pourquoi il dit, toi, ô homme, on t'a montré ce qui est bien. C'est-à-dire ce qui est bien, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ pour avoir la vie. Et une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ pour avoir la vie, il faut que tu sois un homme de justice, un homme qui pratique la justice. Et deuxièmement, il faut que tu aimes la miséricorde. C'est-à-dire, il faut avoir compassion des gens. Il faut, si vous n'avez pas la compassion et la miséricorde, vous ne pouvez pas pardonner. Et le constat amer que nous faisons aujourd'hui, et cela je le dis à ceux qui sont charismatiques, pentecôtisants et évangéliques, que nous devons faire beaucoup attention. Très souvent, nous oublions ce que nous aussi nous étions avant que Dieu puisse nous sauver. Nous étions tous des pécheurs. Romains 3, verset 23 dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire, il n'y a personne dans ce monde qui était juste ou bien saint aux yeux de l'Éternel. Nous tous, nous étions des gens mauvais. Nous étions des pécheurs. Et la Bible va jusqu'à dire que nous étions des enfants de colère. Donc, si nous sommes sauvés, ce n'est pas que nous avons fait quelque chose pour changer notre nature. Mais c'est Dieu qui nous a aimés et qui est venu jusqu'à nous en nous donnant son Fils, Jésus-Christ, qui a échangé sa vie contre notre vie. Il a pris notre nature de péché pour nous donner sa nature de Dieu. Et c'est pour cela qu'on dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Donc, nous sommes sauvés par pure grâce. Et s'il en est ainsi, nous devons faire beaucoup attention. Très souvent, nous jugeons les autres. Très souvent, nous disons que les autres sont des gros pécheurs et que Dieu n'a rien à voir avec eux. Et nous allons jusqu'à ce que même catégoriser les gens ou bien classer même les gens. Ce n'est pas bon. Parce que la part de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, versets 3 à 5, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Toi, chrétien, charismatique et pentecôtisant et évangélique, n'oublie pas, nous étions aussi de leur nombre. Donc nous étions tous des pécheurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur plus que l'autre. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 2 que nous lisons là, à partir du verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, tu entends? Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc c'est la miséricorde que Dieu a pour nous qu'il a poussé à cause de l'amour. Quand vous avez de l'amour pour quelqu'un, forcément vous devez avoir vous devez exercer la mesure et la compassion envers la personne. Donc Dieu est riche en miséricorde. Et à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, le verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous savez, on dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que nous n'avons rien fait pour être aujourd'hui enfants de Dieu. Nous n'avons rien fait absolument. C'est Jésus-Christ qui a tout fait. Et le même qui a tout fait est le même qui nous a convaincus par son esprit que nous sommes des pécheurs, mais qu'en Jésus-Christ, nous pouvons être justifiés. Et c'est le même esprit, le Seigneur, qui nous a encore attirés pour que nous puissions accepter Christ dans notre vie pour être justifiés, pour être pardonnés et pour être maintenant enfants de Dieu. Dès ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que les autres sont condamnés et c'est terminé. Au contraire, nous devons aimer la miséricorde, tel que Dieu nous demande ici, pour que, et supplier Dieu, pour que la miséricorde qui a été manifestée envers nous, que cette même miséricorde puisse se manifester envers nos parents, envers nos frères, envers nos autorités, envers nos compatriotes, pour qu'ils aussi puissent retrouver la vie, ils aussi puissent retrouver le salut. Parce que ce n'est pas un mérite. Le salut n'est pas un mérite, mais une œuvre de grâce. Et si c'est une œuvre de grâce, ça veut dire que c'est une faveur imméritée qui nous a été accordée. Et nous devons faire alors beaucoup attention pour ne pas être plus royaliste que le roi. Nous ne devons pas être plus justicier que celui qui est le justicier lui-même. Si Dieu, qui doit juger toutes choses, il est miséricordieux et compatissant, ce n'est pas moi qui suis un homme à qui il a fait la grâce et qui l'a établi en tant que son prophète, son porte-parole dans ce monde, ce n'est pas moi maintenant qui va se voir plus meilleur que les autres et dire que c'est fini, moi je suis sauvé et que les autres là, ils sont condamnés. Non, c'est faux. Dieu veut toujours sauver les hommes. Sa miséricorde et sa compassion, Dieu a toujours. C'est ce que le psalmiste nous dit dans son 145. Psaume 145, verset 8 à 9. Psaume 145, verset 8 à 9. Écoutez ce que Dieu nous dit là. Vous allez comprendre que la miséricorde de Dieu est toujours à lui jusqu'à ce jour. Psaume 145, verset 8 à 9. Je lis. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Vous entendez le verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel est bon envers tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvient à la connaissance de la vérité. Donc nous devons comprendre que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui est juste dans toutes ses voies et sa miséricorde s'étend sur toutes ses œuvres. Dieu même, il va jusqu'à nous dire que nous devons comprendre que lui étant un Dieu miséricordieux, il s'est présenté à Moïse. Ben, Moïse ne l'a pas connu comme ça. Le peuple d'Israël ne l'a pas connu comme ça. Ils l'ont connu en tant que le Dieu qui est là pour pouvoir réprimander, c'est vrai, pour pouvoir vraiment tuer les gens parce qu'ils ne connaissent pas tous ces caractères de Dieu. Mais quand Dieu a appelé Moïse sur le mont Sinaï, nous avons vu, Dieu s'est présenté en tant que le Dieu miséricordieux et compatissant. Là, en colère, riche en bonté. Vous devez comprendre, et il nous dit ici que la parole de Dieu nous dit ici que l'Éternel Dieu est bon envers tous et ses compassions s'étend sur toutes ses œuvres. Chers auditeurs et auditrices, c'est que toi-même qui m'écoutes, tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux marcher avec Dieu. Dieu ne t'a pas rejeté. Si tu peux reconnaître son amour, l'amour qu'il a manifesté envers toi en envoyant son fils Jésus-Christ mourir à ta place à la croix, en prenant sur lui tous tes péchés, si tu peux reconnaître cela et croire cela et appeler Jésus dans ta vie, le Seigneur Dieu va te sauver et il fera de bons choix avec toi. Dieu ne désire pas ta mort et il ne désire la mort de personne. C'est un Dieu de bonté et sa miséricorde s'étend sur toutes choses. Les gens n'ont pas compris cela et très souvent, ils se sont mis à condamner les autres. Et nous allons voir, pendant que Jésus-Christ lui-même était sur la terre, il y a quelque chose qui s'est produit et quand j'ai lu ce texte-là, moi-même, je me suis mis à réfléchir. Que nous devons faire beaucoup attention, surtout nous qui sommes les prédicateurs de la parole. Nous devons vraiment apporter la parole de Dieu dans toute sa vérité pour que les gens puissent connaître qui est Dieu et ce qu'il peut recevoir de lui. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 9, il y a une histoire étonnante qui est là. Matthieu 9, lisons le verset 9 à 13. On dit, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Chers auditeurs et auditrices, est-ce que ça te dit quelque chose? On dit Jésus-Christ a trouvé un homme au péage. Nous pouvons appeler cet homme-là, il s'appelle Matthieu. C'est pourquoi nos chers douaniers, il s'appelle Saint Matthieu. Parce que Matthieu ici, il est au péage. Bon, donc il est en train de faire son service. Et regardez bien, nous tous aujourd'hui, la mentalité que nous avons des douaniers, c'est des bandits, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui sont remplis de péchés. Si mais nous ne trouvons pas Dieu à la maison. Mais qui vous a dit ça? Regardez, Jésus-Christ, Emmanuel, ça dit que Dieu dans la chair. Lui-même, quand il est venu, il a vu un douanier à son poste. Et il a dit, toi là, suis-moi. Nous là, on a dit que ce sont des gens mauvais. Dieu n'a pas besoin d'eux. Mais Dieu est venu dans la chair et il lui dit, suis-moi. Et la Bible dit que ils sont partis à la maison. Pendant qu'ils étaient à table pour manger, ce n'était pas seulement Matthieu seul. Il y a aussi les publicains, ceux que nous pouvons appeler les financiers, ceux qui travaillent, et comment on appelle, ceux qui nous avons des avis d'imposition. Tout ça, on veut les publicains. Donc, tous ceux qui peuvent faire entrer de l'argent dans la caisse d'État, tous ceux-là, ils sont là. Et non seulement, on dit, les gens aussi de mauvaise vie étaient où? Étaient à table avec Jésus. Je suis sûr, si vous étiez venu chez moi, et que vous avez vu des gens de mauvaise vie, s'asseoir avec moi, et qu'on mange, on est en train de parler, on va dire que le prophète Emmanuel, lui aussi, il est dans le monde. Mais lui, ici, maintenant, il est assis avec des gens de mauvaise vie, et avec des douaniers. Et voyons l'attitude de nous, les religieux. Pendant que Jésus était là, parce que c'est lui qui est Dieu, il est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Il sait que ces hommes et ces femmes-là, Dieu ne les a pas créés pour voler. Dieu ne les a pas créés pour la vie du péché. Dieu ne les a pas créés pour la prostitution. Dieu ne les a pas créés pour le mal. Mais cela, tout ce qu'ils sont en train de faire, est l'œuvre du péché en eux. Et quand lui, il est venu pour ôter le péché du monde, voilà pourquoi il n'a pas peur de s'asseoir avec eux, pour manger avec eux, afin de leur montrer que Dieu s'intéresse à eux et Dieu veut les sauver. Mais les pharisiens, verset 11, regardez les religieux de ce temps-là. Les pharisiens virent cela. Et ils disent à ses disciples, pourquoi votre maître ment-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu et dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc ils se sont attaqués, les religieux, les pharisiens, se sont attaqués aux disciples de Jésus-Christ pour dire, est-ce que vous êtes sûr que votre maître là, il vient vraiment de Dieu? Sinon ces hommes là, les publicains là, ces douaniers là, et ces gens de mauvaise vie là, les prostituées, les volets, les bandits là, ils ne peuvent pas s'asseoir à la même table avec Dieu. Si votre maître est vraiment fils de Dieu là, il ne peut pas les accepter. Voilà le jugement que la religion porte sur les gens. Peut-être toi qui m'écoutes, c'est le jugement qu'on a porté sur toi. On t'a déjà chassé peut-être de l'église, le pasteur de l'église ne voulait plus te voir. Écoute-moi bien. Jésus-Christ, ayant entendu ce qu'on demandait à ses disciples, a dit à ses disciples que lui n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Mais il est venu pour les malades. Au verset 13, Jésus va dire ceci. Allez et apprenez ce que signifie. Jésus dit aux religieux, allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est pour nous les pécheurs que Jésus est venu. Moi j'étais un pécheur, il m'a sauvé, il m'a restauré. Toi aussi quoi qui m'écoutes, viens à Jésus-Christ. La religion peut te rejeter, mais Jésus, lui, il est mort pour toi, il va t'accepter et il va te transformer, car lui, il a le pouvoir. Les religieux jugent, ils condamnent. Dieu, lui, il vous prend, il vous transforme et il fait de vous un homme appréciable par la société. Retenez bien que ceux qui exercent la miséricorde sont les gens qui sont les plus heureux. Et la Bible dit dans Matthieu 5, verset 7, pour nous arrêter, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Ça veut dire que celui qui exerce la miséricorde, on va lui faire aussi miséricorde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, chers auditeurs et auditrices, et comprenez bien que Dieu n'a jamais rejeté qui que ce soit. La miséricorde de Dieu est toujours présente. Et nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous. Passez une agréable soirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et bien, nos chères nations, le bénir.
Vous venez de suivre la puissance de la parole de Dieu. Elle est animée par le prophète Adankon Emmanuel de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. L'église est située à Akwakpa, en face de Ciné Concorde, dans la Vont appelée Vont Sokodo. Voici nos programmes, mercredi et vendredi. À partir de 19h30, cours biblique. Dimanche, premier culte, en français, de 8h à 10h30. Deuxième culte, en goût, de 10h30 à 13h. Les derniers dimanches et les jours de fête, le culte est unique, accompagné de témoignages à partir de 9h. La puissance de la parole de Dieu, quand Dieu bénisse ce que vous avez écouté.